On a le tumulus qui est encore visible dans le paysage, qui est à peu près en élévation sur 1 mètre de haut, qui fait à peu près 20 mètres de diamètre. Donc on a réalisé des coupes dans ce tumulus de manière à comprendre comment il avait été érigé, bâti, parce qu'en fait le tumulus c'est une butte artificielle, donc créée par l'homme. Et en regardant ça en détail, on voit très bien les apports faits par les hommes, les hommes ou les femmes ou les enfants, hein, c'est pas, je dis l'homme avec un grand H, qui arrive avec des paniers et qui verse de l'argile. Argile qui vient souvent, alors, surtout autour du noyau, il y a un noyau central, donc autour de la tombe véritablement. On a vraiment privilégié l'apport d'argile, une argile grise, qui vient certainement du fond de vallon. En contrebas, donc près de l'Odé, mais ça fait quand même une petite distance, et ramener ça à d'autres paniers, et on voit dans les coupes, on voit très bien, ça fait comme des lentilles en fait, d'argile grisâtre, blanchâtre, au milieu du limon. Donc en fait, il y a différents apports comme ça.
Et l'intérêt de l'argile, c'est la structure, ça maintient la structure, c'est ça?
Ouais, enfin, ils ont... Souvent, on a ça dans les tumulus, le cœur du tumulus est comme protégé avec une gangue argileuse. Et en fait, comme c'est un peu aussi étanche, globalement imperméable, c'est aussi ce qui permet de trouver des restes humains ou des restes osseux. Et on a trouvé quelques restes osseux cette année, d'ailleurs, autour de la tombe, dans les structures autour de la tombe. Donc probablement qu'il ne s'agit pas de... Ça peut être des restes... éventuellement de collations prises par les constructeurs de la tombe et jetées dans le bourrage des murs autour de la tombe, comme ça peut être aussi un blaireau ou un renard qui est venu mourir là il y a 200 ans. Quoi. C'est les datations C14 qui permettront de le dire.
Et il y a des pierres, enfin, il y avait de l'argile, donc de la terre, et puis...
Oui, il y a beaucoup de pierres. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez exceptionnel. On a une tombe... ils ont creusé, en fait, une fosse qui fait quasiment 5-6 mètres de longueur sur 4,50 mètres de large, peut-être un peu plus, et sur un bon 1,80 mètres, 2 mètres de profondeur. Donc, ça fait un volume impressionnant de terre et d'argile enlevée, extraite. Et donc, c'est cette argile qu'on va retrouver sur les abords, qui font des tas, là, comme ça, des tas gris, donc qui ont été extraits de cette fosse.
Pas la même que celle de l'Odet, quoi.
Non, c'est encore une autre argile.
Et les pierres, c'est quoi?
Alors, les pierres, ils ont vraiment puisé dans tout ce qu'ils avaient à disposition autour du site, dans un rayon de 2-3 km. Donc là, c'est actuellement, le matériel est en cours d'étude par Bernard Le Gall, qui est géologue au CNRS, à l'université de Brest. Donc on a on a au moins une des dalles, donc la grosse dalle qui forme la dalle de chevet de la tombe côté est, qui est en poudingue. Donc poudingue qu'on retrouve pareil le long des montagnes noires en contrebas de l'Odé. Le poudingue, c'est un espèce de ciment naturel. C'est une roche assez particulière. En fait, je ne sais pas s'il faut faire la comparaison, si le nom a un lien entre poudingue et pudding, mais le côté indigeste du truc, du dessert anglo-saxon, désolé pour les anglo-saxons qui écoutent, on a des petits galets en fait prises dans ce ciment, dans cette pâte de ciment. C'est comme si c'était en fait un grès qui n'est pas complètement silicifié, complètement digéré. C'est juste une extrémité de la tombe, c'est le côté S. En fait, ce genre de tombes ne sont pas faites pour être réouverte. Une tombe doit être ouverte ou fermée, comme dit l'adage, et celle-là a été faite pour être fermée.
Donc, là, donc à chaque extrémité, il y a des grosses pierres, des mégalithes, si on veut.
Ouais, tout à fait, ce sont des mégalithes. Donc la dalle de schiste était une de ces grosses pierres, et au-dessus, on avait une dalle de couverture, que Paul du Châtelier a explosé littéralement à la baramine, etc., et avec des masses pour pouvoir accéder à ce qui l'intéressait, c'est-à-dire, c'est toujours la recherche du trésor. Hein. Bon, même s'il y a un vernis scientifique quand même, on est à la fin du 19e, début 20e, il en tire quand même des choses, mais on sent bien qu'on est quand même toujours à la recherche du bel objet. Quoi. C'est difficile de s'extraire de ça.
Il aurait pu casser la dalle gravée, hein, sans faire
exprès. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, manifestement, c'est en partie ce qu'il a fait, puisqu'on a retrouvé des fragments dans la tombe. mélangé avec les d'autres fragments issus du concassage quasiment de la dalle de couverture. Et autrement, il y avait aussi toute une série de d'autres dalles mégalithiques en granit, en schiste, qui étaient posées certainement, qui faisaient comme une carapace de tortue, un petit cairn protecteur sur le monument. Donc le monument, vraiment, c'est il y a d'abord on creuse une énorme fosse rectangulaire. Ensuite, on construit à l'intérieur cette tombe, donc avec à ses deux extrémités les dalles mégalithiques, sur les côtés des murets en pierre sèche. Ensuite, on fait un bourrage avec un mélange d'argile, de limon et de pierre contre les parois de cette grande fosse. Pour acheminer le matériel, on a créé une rampe d'accès, donc il y a une rampe qui descend en direction.
Quand vous dites on, c'est les gens de l'époque.
Oui, les gens de l'époque, oui, c'est pas nous les archéologues. Mais on l'a dégagé et voilà, elle est parfaitement visible. Et ce qui facilitait évidemment le travail pour. Parce que souvent on voit dans les archéosites ou dans les représentations, on voit comment ils ont mis en place la dalle de couverture. Bah là, pour peut-être une des premières fois, en tout cas en Bretagne, c'est sûr, on a cette rampe qui a été creusée directement dans l'argile et qui est super dure. En fait, on a l'impression que c'est comme damé, c'est comme de la terre battue, parce qu'en fait, ils sont passés par là. Alors, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme support, est-ce qu'ils avaient des rouleaux en bois ou est-ce qu'ils avaient des animaux pour tirer les charges. Il y avait peut-être les deux, hein. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais en tout cas, ça a vraiment damé le sol. Et on voit que le bas de la rampe arrive au niveau du haut, globalement du haut de la grosse dalle. Et donc, il y avait une grosse dalle, encore plus grosse, qui venait coiffer la dalle en poudingue. Donc finalement, il était assez facile de la faire rouler, la faire glisser sans grand effort du fait de cette rampe.
Parce que là, vous l'avez enlevé, c'est ça ?
Et oui, on l'a enlevé hier.
Et pourquoi ?
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, une fouille archéologique, c'est malheureux, mais c'est une destruction aussi. Donc, si on veut comprendre, on est obligé de démonter. Et dans la mesure où le site est isolé, enfin, il se trouve en pleine campagne, surtout dans un champ qui est cultivé, si on avait voulu le mettre en valeur, il aurait fallu envisager cela dès le départ. Et puis surtout, est-ce que c'était pertinent de mettre en valeur un site qui avait déjà été bien abîmé par Paul Duchâtelier ? Donc en fait, voilà, c'est toujours un peu les mêmes questions quand on fouille ce genre de choses. Mais comme tout a été scanné, numérisé, on a fait de la photogrammétrie, en fait, tout ça va pouvoir après faire l'objet d'une visite virtuelle du site. Alors évidemment, c'est pas. Je préfère visiter un site en vrai, moi aussi, mais c'est mieux que rien, on va dire. Et en fait, tout ce qui est pierre, on va toutes les conserver aussi. Donc, et puis évidemment, la dalle gravée ainsi que les objets archéologiques les plus intéressants qu'on a mis au jour seront exposés lors de la grande exposition bronze qui aura en 2025 au Musée d'Archéologie Nationale. Puisque la fouille est en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale aussi.
Oui, parce que la dalle gravée, elle y est toujours à fond. Oui. Ouais. Et vous allez quand même pas. Si vous allez emmener toutes les pierres sèches du mur et tout ça, vous allez tout emmener.
Alors oui, on va tout amener parce qu'on aimerait bien faire un énorme travail justement sur l'origine des pierres. C'est pour ça que Bernard Le Gall est là. Et donc aussi pouvoir un peu mesurer, pondérer. Qu'est-ce qui vient de telle carrière, est-ce qu'il y a une carrière qui est plus importante qu'une autre, est-ce que telle carrière a servi plutôt pour des petits moellons, d'autres, enfin on le voit déjà un peu, mais avoir des données chiffrées là-dessus. Et un autre truc qu'on veut faire cet hiver, c'est parce qu'il y a plein de fragments de schiste. Alors soit de la dalle de couverture, on en voit là le long qui sont probablement de la dalle de couverture de la tombe, mais aussi de la dalle, c'est plus rare, de la dalle ornée. Alors on en a trouvé 3 ou 4, comme je disais tout à l'heure. Si on étale tout ça, il est probable qu'on trouve encore 2 ou 3 fragments. Donc 2 ou 3 fragments, pour nous, c'est important.
Il n'y a pas d'autres gravures ailleurs, sinon ?
Non. Non, non, on a vraiment regardé en détail toutes les pierres, et c'est vraiment que sur cette dalle.
Et là, alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire ?
On pense avoir terminé l'année prochaine. Donc là, on finit de fouiller le fond de la tombe, et on réalise une dernière coupe. Et ensuite, ça sera terminé, donc voilà. Ça va être recouvert ensuite de terre, de manière à ce que l'agriculteur puisse travailler. Encore une fois, tout ça est pris en photo, enfin en photogrammétrie même, donc on a tout en 3D, quoi. Et comme on l'avait fait pour les maisons de Béguerloued, donc sur l'île de Molène, on va pouvoir faire une évocation, une restitution en 3D. Enfin, il manque des éléments comme à Molène, mais on va pouvoir, en réfléchissant avec architectes et avec tous les spécialistes en fait qui sont sur la fouille, à la restitution complète du site avant sa destruction par Monsieur Paul Duchâtelier, quoi, et par nous aussi.
Ouais. Là, il y a eu combien de personnes qui ont travaillé sur ce chantier pendant les 2 ans?
Là, on tourne cette année sur la campagne qui dure un mois. On avait à peu près 15 fouilleurs par jour. On était moins nombreux l'année dernière. Mais ça manquait un peu, justement. Donc parce que finalement, c'est assez physique. Il y avait beaucoup, beaucoup de volume à enlever. Et puis, on ne s'est pas limité qu'à la tombe. Là, vous voyez, on est tous un peu sur la tombe, mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Il y avait toutes les coupes à relever. Ça prend beaucoup de temps.
Le périmètre est quand même resté restreint. Enfin, vous n'êtes pas amusé à aller voir s'il y avait des maisons dans les environs, quoi.
Non, parce qu'en fait, Clément, l'année dernière, enfin, et moi, on avait fait des décapages. Bon, on voit encore les stigmates dans le champ. On n'avait rien trouvé de vraiment de probant. Enfin, il y a une enceinte, mais qui doit être plutôt âge du fer, qui se trouve sur le plateau là. Il y a un tumulus et un autre tumulus qui se trouve juste là, à l'angle du champ. Et possiblement, il y a une autre anomalie là également. Mais Paul Duchâtelier l'a fouillé, celui-là en quatrième vitesse, il n'a rien trouvé. Et puis finalement, fouiller un tumulus, enfin, là il y avait vraiment un challenge parce que c'est celui qui contenait la carte. Mais là maintenant, à l'avenir, c'est vraiment d'essayer de trouver de décrypter cette carte encore plus précisément et trouver la légende, quoi.
Bah, ça passera peut-être par d'autres fouilles, mais ailleurs sur le territoire.
Ouais, en fait. Ouais, on a déjà quelques idées en tête, même si on n'a pas encore commencé à réaliser des prospections serrées, fines, mais on a repéré quelques enceintes qui pourraient être contemporaines du monument, une pas très loin, à peine 1 km au sud. Donc c'est prometteur. C'est bien droit là. C'est...